Bonjour Victoria, bonjour à tous, vacanciers, travailleurs, étudiants, retraités, flâneurs, joggeurs, pique-niqueurs, auditeurs tout court, francophones et francophiles, alouette, Alexis Gagnon au micro du 107.9 FM. Bon début de semaine à tous. Nous amorçons, comme d'habitude, l'émission avec une revue de presse des actualités internationales. Mais avant de lancer la première revue de presse de ce débrief, je note que Dominique Wozniak sera avec nous en seconde partie d'émission pour évoquer une série d'activités culturelles à ne pas manquer dans les prochains jours à Victoria. Bonne émission à tous. Merci de s'intoniser, CILS FM 107,9. Vous écoutez l'émission Le Débrief. Mon nom est Alexis Gagnon. Voici votre revue de presse internationale. Et on débute avec une nouvelle qui entretient un lien direct avec le Canada. En France, le Conseil constitutionnel juge le CETA compatible avec la Constitution française. Saisi par des députés de la gauche française, le Conseil constitutionnel de l'État français a estimé lundi que l'accord commercial de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada n'implique pas de réviser la Constitution française. C'est un article qui paraît dans le journal Le Monde et c'est signé par la journaliste Marie Charelle. C'est une décision particulièrement attendue, écrit la journaliste, par les organisations non gouvernementales, les ONG, une partie de la gauche et tous ceux qui s'inquiètent des excès du libre-échange. Lundi 31 juillet, le Conseil constitutionnel, saisi en février dernier par plus de 60 députés de gauche à propos du traité de libre-échange connu sous l'acronyme CETA. Résultat? Les membres du Conseil constitutionnel français ont estimé que ce dernier n'est pas contraire à la Constitution française. Donc le CETA n'est pas contraire à la Constitution française. C'est ce qu'a statué le Conseil constitutionnel en France. Vous aurez les détails dans cet article du journal Le Monde, signé par la journaliste Marie Charelle, et dans plusieurs autres médias également. Cette nouvelle paraît aujourd'hui. On a un papier dans Mediapart d'ailleurs, signé par la journaliste Martine Orange. Le Conseil constitutionnel emporté dans une dérive libérale. Le Conseil constitutionnel estime que l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe, le CETA, est conforme à la Constitution, rappelle-t-elle. Plus que le rejet en lui-même, ce sont ces arguments qui posent question. Pris dans une dérive libérale, le Conseil constitutionnel français érige une nouvelle fois la liberté d'entreprendre comme principe cardinal de notre Constitution, l'emportant sur toutes les autres libertés publiques. Voilà, c'est l'analyse que propose dans le lead de cet article la journaliste Martine Orange. Et la journaliste rappelle que le CETA a été négocié pendant des mois en catimini, c'est-à-dire en quasi-secret, de façon peu transparente, donnant lieu à une crise majeure avec la Wallonie en automne dernier. Puis, il a été adopté par une large majorité du Parlement européen en février. Le CETA, écrit-elle, est toujours contesté tant il soulève de problèmes. Donc, c'est une analyse critique que fait Martine Orange dans cet article, une analyse critique concernant la décision qu'a rendue aujourd'hui le Conseil constitutionnel français à propos du CETA. Je rappelle le titre, le Conseil constitutionnel emporté dans une dérive libérale. Relations internationales, toujours dans cette revue de presse, sanctions américaines, retour à la surenchère entre la Russie et les États-Unis. La confrontation était relancée ce lundi entre la Russie et les États-Unis après un nouvel échange de sanctions qui semble porter un coup de grâce aux espoirs de réchauffement suscités l'automne dernier par l'élection de Donald Trump. Vous trouverez cet article dans le portail de West France à l'adresse west-france.fr. Alors cet article revient sur l'escalade des mesures comprises tour à tour les États-Unis et la Russie sur le plan diplomatique. Dernière en date, la Russie qui décide d'expulser du personnel diplomatique de Moscou et de Russie en général. Vous trouverez donc le détail des derniers développements dans cet article de West France. Je rappelle le titre, sanctions américaines, retour à la surenchère entre la Russie et les États-Unis. à propos de l'armée américaine et de son engagement en Afghanistan. Cette fois, on trouve un article sur le portail de RFI intitulé « Afghanistan, un rapport accablant sur l'utilisation de l'aide américaine ». L'Afghanistan s'enfonce dans le conflit et dans une crise politique qui dure, peut-on lire dans cet article. C'est ce que pointe le SIGAR, le Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction. C'est un organisme américain chargé du contrôle des dépenses de Washington en Afghanistan. Et le dernier rapport de cet organisme est consternant, peut-on lire. Tous les voyants sont au rouge. L'article est écrit, je le disais, sur le portail de RFI. C'est par la journaliste Sonia Ghezali. Plus de 6500 incidents sécuritaires ont été recensés au cours des 4 derniers mois dans le pays, écrit-elle. Des attaques, des bombes magnétiques, des fusillades. En l'espace de 4 mois seulement, les faits de violence ont augmenté de 21%. Des chiffres qui attestent de la dégradation du contexte sécuritaire avec une accentuation des attaques menées par des assaillants talibans ou appartenant à d'autres groupes d'insurgés comme l'organisation État islamique en Afghanistan. Ce sont des attaques, écrit la journaliste, qui coûtent la vie à de nombreux civils, mais qui causent aussi de lourdes pertes dans les rangs des forces de sécurité. 2530 policiers et soldats ont été tués depuis le début de l'année 2017. Plus de 4200 blessés aussi, souligne cet organisme, signataire du rapport dont l'article fait état. Et le SIGAR, comme on l'appelle, c'est l'acronyme, précise que les insurgés n'ont pas pris davantage de terrain en Afghanistan. Donc c'est le statu quo sur le plan du contrôle territorial. Ils ont actuellement, ces insurgés, environ 40% du territoire afghan. Alors je rappelle le titre, un rapport accablant sur l'utilisation de l'aide américaine, c'est dans le portail de RFI. Et parlons encore quelques instants des États-Unis, tandis que nous y sommes. Dans le portail de West France, à l'adresse west-france.fr, une nouvelle sur le thème de la santé publique, tabac. Les États-Unis veulent réduire la nicotine dans les cigarettes. Pour la première fois, l'Agence américaine des produits alimentaires et des médicaments, la FDA, envisage de réduire les taux de nicotine dans les cigarettes afin de les rendre moins addictives. L'annonce de cette proposition a été saluée par les associations anti-tabac américaines. Le tabagisme est en net recul aux États-Unis, signale cet article de West France, avec seulement 15% d'adultes qui fument. L'Agence américaine des produits alimentaires et des médicaments, la FDA, a annoncé cette mesure il y a quelques jours. Et c'est une mesure qui étonne certains observateurs, puisque c'est une mesure qui va embêter les lobbies du tabac, qui sont généralement des soutiens fidèles du Parti républicain, parti du président Donald Trump. Donc cette nouvelle a de quoi étonner certains observateurs. Vous la trouverez dans le portail de West France. Les États-Unis veulent réduire la nicotine dans les cigarettes. On se transporte en Extrême-Orient maintenant, et cette fois dans les colonnes du journal Le Monde, pour ses 90 ans, la démonstration de force de l'armée chinoise. Un texte signé par Brice Pedroletti, le correspondant du Monde à Pékin. Xi Jinping, le président chinois et secrétaire du Parti communiste chinois, le PCC, a rappelé aux États-Unis et au reste du monde que son armée était désormais celle d'une grande puissance. Immense terrain d'entraînement longtemps secret s'étirant à perte de vue sur les steppes mongoles, la base de Zuri a accueilli dimanche 30 juillet un défilé militaire spectaculaire, le premier à se tenir en dehors de la capitale Pékin. Ce défilé célébrait les 90 ans de l'Armée populaire de libération chinoise, l'APL, fondée clandestinement par le Parti communiste chinois, le PCC, le 1er août 1927 sous le nom d'Armée rouge chinoise, dans ce qui était alors, à cette époque, la Chine de Chiang Kai-shek. Cette démonstration de force, prévue de longue date, intervient sur fond de regain de tension entre la Chine et les États-Unis depuis un deuxième essai de missile intercontinental nord-coréen le 28 juillet, il y a quelques jours à peine. Cet essai de lancement de missile par la Corée du Nord a valu à la Chine d'être la cible le lendemain d'une virulente attaque sur Twitter de la part de Donald Trump, au motif que Pékin ne faisait rien pour les États-Unis au sujet de la Corée du Nord. Nous ne permettrons plus que cela continue, a écrit le président américain Donald Trump au lendemain de l'essai de missiles nord-coréens. La Chine pourrait très aisément résoudre ce problème. Alors, cette immense parade militaire à l'extérieur de Pékin, chorégraphiée par l'armée chinoise, est une sorte de réponse aux États-Unis et participe sans doute à l'accroissement des tensions dans cette région du monde. Vous aurez le compte-rendu de Brice Pedroletti, le correspondant du Monde à Pékin. Sous le titre « Pour ses 90 ans, la démonstration de force de l'armée chinoise ». On fait un saut en Amérique du Sud maintenant. Venezuela, premier mort face au coup de force de Maduro. C'est dans le portail de Mediapart sous la plume de Karl Laske. Boycotté par l'opposition, l'élection d'une assemblée constituante au Venezuela a provoqué de violents heurts. Le bilan s'établissait à 14 morts. Dimanche en fin de journée, selon les autorités du pays, le taux de participation au scrutin s'élève à 41,5%. Plusieurs pays voisins, dont l'Argentine et la Colombie, ont annoncé qu'ils ne reconnaissaient pas le résultat du vote. C'est un compte à rebours qu'a enclenché le président Nicolas Maduro dimanche en votant le premier dès 6 heures du matin à l'élection de l'Assemblée constituante. Dans un climat d'état de siège, alors que le scrutin est boycotté par l'opposition, une assemblée monocolore de 537 délégués chargée d'élaborer une nouvelle constitution doit, selon les plans du président Maduro, s'installer dès la semaine prochaine et faire table rase de l'Assemblée nationale, élue démocratiquement en décembre 2015, mais dominée par l'opposition du parti de droite vénézuélien. Vendredi et samedi, de nombreux incidents sont survenus impliquant des unités de la garde nationale bolivarienne ayant fait irruption dans des zones résidentielles pour y chercher des manifestants ou exercer des représailles dans l'incompréhension des résidents. Des barricades sont apparues partout dans le pays, peut-on lire dans cet article de Mediapart. Alors, la violence ne semble pas vouloir s'atténuer au Venezuela. Vous aurez l'article de Karl Laske dans le portail de Mediapart sous le titre « Premier mort face au coup de force de Maduro ». Et si vous voulez approfondir, il y a aussi dans le portail de RFI cet article intitulé « Venezuela, ce qu'il faut savoir sur le projet d'assemblée constituante ». Je vous en lis quelques lignes. Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a réussi à imposer l'élection d'une assemblée constituante dimanche, en dépit du rejet de l'opposition et de la réprobation de la communauté internationale. Et dans cet article, on indique pourquoi exactement l'opposition face à Nicolas Maduro rejette la constitution de cette assemblée. Depuis le début du processus, peut-on lire, l'opposition a toujours refusé farouchement de se plier à ce scrutin de l'assemblée constituante. En effet, l'opposition voit dans ce projet une manœuvre du président pour gagner du temps et ne pas se soumettre à un vrai processus électoral. C'est dans le portail RFI que vous trouverez ces informations supplémentaires sur le projet d'assemblée constituante du président Maduro. Et on signale deux disparitions importantes dans le monde des arts aujourd'hui. Mort de Jeanne Moreau, grande comédienne et personnalité insoumise. C'est le titre que lui réserve le journal Le Monde. Jeanne Moreau est morte le 31 juillet à l'âge de 89 ans, peut-on lire. Sa voix grave, ravageuse, sa séduction troublante, sa personnalité insoumise et ses choix tout au long de sa carrière l'ont consacrée comme l'une des grandes stars françaises et internationales. RFI titre « Mort de Jeanne Moreau, figure de la chanson et du cinéma français ». Monument, muse ou encore monstre sacré du cinéma français, ce sont les termes qui reviennent le plus souvent pour qualifier Jeanne Moreau, décédée ce lundi 31 juillet à l'âge de 89 ans. Cependant, peut-on lire dans cet article de RFI, la trace que laisse la grande actrice dans les mémoires dépasse à la fois les cadres du cinéma et de la France. Actrice, chanteuse et réalisatrice, sa carrière l'aura souvent menée hors de son pays d'origine. Elle avait notamment travaillé, rappelle cet article, avec les plus grands réalisateurs comme Luis Buñuel, Theo Angelopoulos, Wim Wenders, Joseph Losey, Orson Welles, François Truffaut, Louis Malle ou encore Bertrand Blier et même Antonioni, aussi le grand réalisateur italien du néo-réalisme italien. Alors, une carrière vraiment marquée par de grands succès au cinéma, mais aussi au théâtre, en chanson. Vous aurez un portrait complet du parcours biographique de Jeanne Moreau. C'est sur le portail de RFI. Vous le trouverez également dans de nombreux autres médias. Et l'autre disparition dans le secteur culturel, théâtre, cinéma, c'est celle de l'acteur américain Sam Shepard. C'est également mentionné sur le portail de RFI. Je vous lis quelques lignes. L'acteur américain Sam Shepard, connu pour sa présence à l'écran et pour plusieurs rôles marquants, mais aussi pour ses qualités d'auteur, est décédé jeudi. A annoncé lundi un porte-parole de sa famille au New York Times. Il était âgé de 73 ans. Samuel Shepard Rogers, de son nom complet, est décédé des suites d'une sclérose latérale amyotrophique, maladie neurodégénérative, également appelée maladie de Charcot, a indiqué Gary Grant, un professeur de théâtre à l'université de Bucknell, qui avait mis en scène plusieurs de ses pièces. Voilà qui complète la revue de presse internationale pour ce lundi 31 juillet, en rediffusion pour le 1er août. Merci de suivre le débrief à l'antenne de votre fréquence communautaire francophone locale. L'émission se poursuit dans quelques instants avec la revue de presse canadienne. À tout de suite. Vous êtes toujours à l'antenne de CILS FM 107,9 en plein dans l'émission Le Débrief. Nous poursuivons les revues de presse. C'est le moment de la revue de presse canadienne. Nous allons tout de suite débuter dans le fil de la presse canadienne. Une nouvelle qui fait le pont entre l'international et le national. Vous allez voir, Ottawa se penche sur l'utilisation de blindés canadiens en Arabie Saoudite. Le gouvernement fédéral dit se pencher sur des informations selon lesquelles l'Arabie Saoudite emploie des véhicules blindés faits au Canada dans le cadre d'affrontements avec des dissidents. Le quotidien The Globe and Mail rapportait vendredi que, selon des experts ayant examiné des images de récents combats, l'Arabie Saoudite se sert de véhicules blindés canadiens contre des militants de la minorité chiite. Dans une déclaration par courriel, Affaires mondiales Canada a réaffirmé qu'Ottawa s'attend à ce que les utilisateurs d'exportation canadienne respectent les conditions prévues dans les licences. Si l'on découvre que des exportations canadiennes ont été utilisées pour commettre de sérieuses violations des droits de la personne, la ministre Chrystia Freeland interviendra. Chrystia Freeland est ministre des Affaires étrangères du Canada. C'est la réponse qu'a faite Affaires mondiales Canada aux questions du Globe and Mail. Donc, en résumé, l'Arabie Saoudite utilise des tanks canadiens pour faire de la répression contre des populations civiles qui appartiennent à la minorité chiite d'Arabie Saoudite. Vous trouverez ça dans le fil de la presse canadienne. C'est une nouvelle qui a fait le tour du monde par ailleurs. On la retrouve dans d'autres médias, notamment sur le portail Atlantico, à l'adresse atlantico.fr. Le Canada s'inquiète de la possible utilisation de blindés qu'il a vendus à l'Arabie Saoudite. Peu étonnant finalement que l'Arabie Saoudite utilise ses blindés contre des populations civiles. L'Arabie Saoudite a un dossier très peu reluisant, marqué de nombreuses infractions aux droits humains dans les années passées. Ça n'est pas très surprenant finalement que l'Arabie Saoudite fasse cet usage des blindés qui lui ont été vendus par le Canada. On va poursuivre dans le fil de la presse canadienne. NPD, une course extrêmement serrée selon Guy Caron. Le candidat à la direction du nouveau parti démocratique, le NPD, Guy Caron, estime que la course est extrêmement serrée, au point qu'il croit qu'il y a tout juste 10 à 15 points d'écart entre ceux qui occupent la première et la dernière place. Alors, Guy Caron est député de la circonscription de Rimouski, Najet, Témiscouata, les Basques, au Québec. Il remarque également que beaucoup de membres du NPD demeurent indécis actuellement. Donc, rien n'est joué encore en substance. C'est ce qu'indique cette déclaration de Guy Caron rapportée par la presse canadienne. Vous aurez ça notamment dans le journal La Presse. Et on va rester dans le fil de la presse canadienne pour citer quelques dépêches. Achat en ligne, une fiscaliste incite Ottawa et Québec à imposer une taxe. La fiscaliste Marois Risky incite Ottawa et Québec à emboîter le pas à plusieurs pays de l'OCDE pour récupérer les millions de dollars en taxes sur les achats de produits ou de services en ligne que les gouvernements perdent chaque année. La chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques publie cette semaine un document de recherche sur le cas de l'Australie, qui a adopté un plan pour taxer les services en ligne tels que Netflix, mais aussi les produits achetés sur des plateformes comme eBay et Amazon. C'est dans le fil de la presse canadienne. Toujours dans le fil de la presse canadienne, encore cette nouvelle qui nous vient du Labrador. Muskrat Falls, des manifestants réclament la libération de militants. Des manifestations ont eu lieu lundi en appui à 3 personnes qui ont été emprisonnées après avoir refusé de se conformer à une injonction de la Cour leur interdisant l'accès au site du projet hydroélectrique de Muskrat Falls dans le Labrador. Une vingtaine de militants se sont rassemblés à l'édifice de la Confédération à Saint-Jean, Terre-Neuve, pour présenter une pétition de 3000 signatures réclamant la libération de Jim Learning, Eldred Davis et Marjorie Flowers, des aînés inuits qui ont été emprisonnés pour avoir manifesté trop près de cette installation hydroélectrique. Vous trouverez ça dans le fil de la presse canadienne. Et si on passe du côté du journal Le Devoir, deux articles intéressants à noter pour vous. Tout d'abord, un article à thématique francophone qui intéressera ceux qui suivent le dossier des droits linguistiques et des langues officielles au pays. L'Ontario crée un ministère à part entière pour les affaires francophones. C'est ce qu'on apprend dans un texte signé par Amélie Pineda dans le journal Le Devoir. L'Office des affaires francophones de l'Ontario devient un ministère à part entière, écrit-elle. C'est ce qu'a annoncé la première ministre Kathleen Wynne. Vous aurez ça dans le journal Le Devoir. On trouve également cet article dans Le Devoir signé par la journaliste Isabelle Porter et le journaliste Dave Noël. Fermeture du Globe and Mail à Québec, symptôme d'un désintérêt pour la politique québécoise. Le Devoir qui signale la fermeture du bureau de ce grand média pan-canadien, le Globe and Mail, qui est basé à Toronto. Il tenait un bureau dans la capitale québécoise depuis des décennies. Ce bureau va fermer, c'est ce que nous apprend le journal Le Devoir, qui titre sans détour « Fermeture du Globe and Mail, symptôme d'un désintérêt pour la politique québécoise ». Vous trouverez ça dans le journal Le Devoir. On va faire un petit tour sur le portail de Radio-Canada International maintenant à l'adresse rcinet.ca. Un article sur les feux de forêt. Comprendre l'impact des feux de forêt sur les communautés autochtones du Canada. Des feux de forêt brûlent toujours en Colombie-Britannique, ce qui a forcé l'évacuation de dizaines de milliers de résidents qui commencent lentement à rentrer à la maison. Un article signé par Maryse Jobin. Des communautés dont certaines sont autochtones n'ont pas voulu être évacuées, jugeant qu'elles voulaient participer aux efforts déployés pour combattre les brasiers, écrit la journaliste. Durant les 30 premières années, les Autochtones ont constitué 30% des personnes évacuées par les incendies, alors qu'ils ne représentent qu'un peu plus de 3% de la population. Solange Nadeau est sociologue forestière principale au Service canadien des forêts. Elle explique dans cet article que les feux peuvent poser des problèmes particuliers pour ceux qui vivent en régions éloignées, comme les communautés autochtones ou les familles élargies vivant sous un même toit. Alors, on comprend mieux dans cet article qui présente une interview menée par la journaliste Maryse Jobin avec la sociologue Solange Nadeau. On comprend mieux donc comment s'opère l'impact des feux de forêt dans les communautés autochtones du Canada, communautés, on le rappelle, qui refusent parfois d'être évacuées, soulignant qu'elles sont capables, compétentes pour combattre les feux de forêt. Et justement, dans le portail britanno-colombien de Radio-Canada, on a ce titre également. Des Premières Nations demandent un plus grand rôle dans la lutte contre les feux en Colombie-Britannique. Des Premières Nations touchées par les incendies de forêt en Colombie-Britannique demandent un financement comparable aux autres groupes d'intervention d'urgence et une reconnaissance de leur expertise dans la lutte contre les feux. L'Assemblée des Premières Nations a adopté une résolution à son Assemblée générale annuelle cette semaine à Regina, en Saskatchewan, une résolution demandant de mettre fin au conflit juridictionnel entre les différents ordres de gouvernement, conflit qui influe sur la capacité des communautés autochtones à répondre aux feux qui font rage sur leurs propres terres. La chef Judy Wilson de la bande indienne Nesconit soutient que les Premières Nations doivent être impliquées activement dans la négociation d'entente pour assurer que les pompiers autochtones et d'autres fournisseurs de services obtiennent la même reconnaissance que les autorités provinciales et régionales. Cette nouvelle paraît dans le portail britanno-colombien de Radio-Canada. Et puisque l'on poursuit cette revue de presse provinciale maintenant du côté de la Colombie-Britannique, on attendait aujourd'hui le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, dans notre province. Justin Trudeau voulait prendre connaissance de visu sur place de l'étendue des incendies qui ravagent des portions de la province. C'est dans le fil de l'agence France-Presse. Le premier ministre Justin Trudeau se rend en Colombie-Britannique lundi pour rencontrer des militaires, pompiers et policiers et visiter des zones touchées par les incendies de forêt qui dévastent la province. Et cet article de l'AFP précise que le premier ministre était accompagné du ministre de la Défense, Arjit Sajjan, de la ministre chargée des efforts fédéraux de rétablissement après les feux de forêt, Carla Quartrow, de la ministre de la Justice, Judy Wilson-Raybould, et du nouveau premier ministre de la province de Colombie-Britannique, John Horgan. Et très localement, maintenant, pour clore cette revue de presse nationale et provinciale, un article aperçu dans le portail Victoria News à l'adresse vicnews.com à propos d'un événement qui devait se tenir en fin de semaine, mais qui malheureusement a été annulé. C'est un événement de baignade, un festival de baignade dans la gorge ici à Victoria, appelé Swimfest. Le titre de cet article sur le portail vicnews.com, Troubled Waters at Swimfest. Et l'article signé par Wolf Deppner dans Vic News indique que c'est une poussée d'algues, une présence d'algues troublante et suspecte qui a mené à l'annulation de l'événement. Plusieurs participants ont d'abord cru que c'était un déversement de produits toxiques qui avait motivé l'annulation de l'événement dans son édition 2017. Mais non, il s'agirait plutôt de la présence plus grande que d'habitude et suspecte d'algues dans la gorge, non loin de la passerelle entre Vic West et Rock Bay. Donc, si vous voulez avoir les détails, c'est un article qui s'intitule « Troubled Waters at Swimfest ». Donc, malheureusement, un événement qui a dû être annulé, un événement annuel qui avait connu beaucoup de succès dans les dernières années. Voilà, on referme cette revue de presse nationale et provinciale sur cette nouvelle locale. Restez à l'écoute. Dans quelques instants, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec la responsable des communications de la Société francophone de Victoria, Dominique Wozniak. On va parler de l'agenda culturel francophone des prochains jours et des prochaines semaines. Munissez-vous d'un crayon et d'un bloc-notes. Il y a quand même pas mal de choses, des activités pour toute la famille. À tout de suite. écoutions à l'instant une pièce du trio Simon Denizard à l'antenne de CILS FM 107,9. C'est tiré de leur album Beautiful People. Vous êtes toujours dans l'édition du 31 juillet et du 1er août. Merci d'être à l'écoute. J'accueille en studio Dominique Vosniak, responsable des communications à la Société francophone de Victoria. Bonjour Dominique.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Alors, les auditeurs auront peut-être intérêt à saisir leur bloc-notes. On a des propositions d'activités à leur faire, une liste assez fournie. On va commencer par le commencement, en ordre chronologique, des activités qui approchent à grands pas dans la grande région de Victoria, n'est-ce pas?
Ça commence demain soir, le mardi 1er août, au Beacon Hill Park, avec une soirée francophone gratuite. Donc je vous invite à tous y aller. Donc, en première partie d'une personne assez connue, Sophie Villeneuve, à 18h, il y a Moonfruits. Donc, c'est un groupe de rock, Alex et Caitlin Miller, qui ont sorti un album en 2017, là, en début d'année. Donc, c'est un album folk et nommé Sainte quelque part.
Voilà. D'accord, donc c'est demain.
Demain, à 18h, au Beacon Hill Park. C'est gratuit.
Demain 1er août.
1er août.
Ok.
Donc c'est dans le cadre des Folk Music Evening Series. Donc demain soir nous aurons une soirée francophone à 18h, Moonfruits. Donc c'est un groupe de rock avec Alex et Caitlin Miller qui ont sorti leur dernier album début 2017, un album folk. Donc je vous invite à aller les soutenir. Et ensuite à 19h, Sophie Villeneuve sera là aussi avec un spectacle gratuit solo. C'est une auteure, compositrice, interprète originaire du Québec et elle a été gagnante du Pacifique en chanson en 2016.
Donc ça c'est la facette francophone de l'activité, c'est la raison pour laquelle on vous la propose. J'ai une question Dominique, Beacon Hill Park c'est assez grand, est-ce qu'on sait où se trouve la scène?
Alors la scène se trouve au Cameron Bandshell, donc c'est au sud du lac, entre les rues Douglas et Arbutus, très facile à trouver, vous pouvez vous garer sur la rue Arbutus je pense, et puis vous dirigez à pied sur la scène qui est toujours là.
Vers la scène extérieure qui est à cet endroit. Formidable. Donc ça complète pour cette information à propos du concert qui se déroule demain 1er août. Très bien. Alors, a-t-on d'autres propositions à faire pour que les gens puissent inscrire d'autres activités à leur agenda des prochains jours?
Oui, alors pour la fin de la semaine, je vous propose de vous rendre au Vic Theatre au 808 Douglas, sur la rue Douglas. Donc, il y a un film qui est très intéressant. Alors, il est en anglais, mais réalisé par une Canadienne, Fiona Gordon, et un Belge, Dominique Abel. Donc, c'est un duo burlesque, inventif et plein d'humour, des réalisateurs passionnés et passionnants. Et donc, c'est l'histoire de Fiona, une Québécoise qui reçoit une lettre de sa tante Martha, âgée de 88 ans, qui vit à Paris. Et cette lettre...
En anglais.
Le film est en anglais, je
D'accord.
pense, ouais.
Okay.
Mais le film est vraiment burlesque et c'est très intéressant d'y aller. Rien que pour ça, c'est parce que on a notre Fiona qui va se précipiter à Paris, inquiète et qui ne trouve pas sa tante. Elle a disparu. Et alors là commence les aventures de Fiona dans Paris. Je pense que c'est vraiment à voir et vous pouvez vraiment rire. Donc c'est au Vic Theatre, vendredi 4 août à 19h, le samedi 5 août à 16h et le dimanche 6 août à 19h.
Est-ce qu'on peut rappeler le titre rapidement?
Lost in Paris.
Lost in Paris. Donc, ceux qui veulent peut-être connaître les images, avoir un aperçu, consulter la bande-annonce sur YouTube. Lost in Paris, avec plusieurs projections au cours des prochains jours. Merci, Dominique. On enchaîne avec d'autres activités?
Je vous invite à vous rendre au Butchart Gardens le 9 août pour...
les très célèbres Butchart Gardens.
Oui, bien sûr, pour avoir encore une soirée musicale en français avec Le Vent du Nord et de temps en temps, les deux groupes seront réunis ensemble sur scène. Donc, ça va être absolument fabuleux. allez-y. Donc, le 9 août.
Du contenu francophone.
Du francophone. Oui, oui, ils sont venus en plus, ils sont venus pour la fête du Canada. Ils étaient sur scène.
Ah oui, d'accord, formidable. Mmh. L'occasion donc de les voir ou de les revoir à Butchart Gardens le 9 août.
Oui. Formidable. Et la dernière date du mois d'août, donc j'aimerais vraiment vous parler de ce que la société francophone va mettre en place gratuitement, donc un spectacle atelier qui s'appelle Les Murales. Donc ça aura lieu le 15 août à 18h, ici à la salle communautaire de la société francophone au 12-18 rue Langlais.
C'est quoi le concept ?
Ah bah c'est quelque chose de complètement nouveau. Donc il y aura une première partie de 45 minutes environ où vous seront présentés en chansons et en paroles la présence francophone à Victoria de 1842 à 1871. Comment le français a influencé la langue chinook et aussi avec l'anglais. Donc c'est un spectacle en anglais, en français. Et en chinook,
Chinook qui est une langue autochtone.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Langue autochtone, présentée par Marie-Hélène Bourret et Gary Cohen pour les chansons.
Qui sont très bien connus des auditeurs de CILS. Marie-Hélène oui. qui contribue fréquemment à l'émission Le Débrief. Et Gary Cohen qui est un invité oui. régulier que l'on a vu notamment au Festival de la Francophonie en mai dernier.
Oui. Et donc, ensuite, il y aura un petit intermède parce que nous proposerons des bouchées. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite. Tout ça, c'est gratuit, évidemment, je le rappelle.
Magnifique.
Et en deuxième partie, donc l'artiste donc, de l'île de Vancouver, qui est très connue francophone, Françoise Moulin, va nous inviter à dessiner et créer une murale collectivement.
Ah oui. Sur un mur de Victoria's.
Alors pour l'instant, on va le garder ici à la société francophone. Voilà, oui. Je ne sais pas encore comment elle veut réaliser les choses, mais on va déjà l'aider avec nos propres dessins. Et puis ensuite, c'est elle qui décidera comment elle souhaite monter tout ça.
Donc rendez-vous au 12-18 Langlais pour cette activité qui se tient le 15 août.
À 18h, je vous invite à vous inscrire gratuitement. Donc vous allez sur notre site internet francocentre.com, vous avez une bannière qui est tout de suite en arrivant sur le site, vous cliquez dessus et puis vous inscrivez, c'est très facile, si vous n'y arrivez pas, passez-nous un petit coup de fil.
Ça s'intitule Les Murales, vous trouverez aisément sur le site francocentre.com, donc voilà.
Et aussi notre Facebook.
Facebook également, bien sûr. Donc, on a garni l'agenda des auditeurs, Dominique, grâce aux suggestions de la Société francophone de Victoria. Je te remercie.
Merci à tous. Nous espérons vous voir en nombre dans toutes nos activités. Et merci à toute la communauté.
À très bientôt. Merci. Encore merci à Dominique Wozniak de la Société francophone de Victoria pour ses suggestions d'activités culturelles au cours des prochains jours. C'est déjà la fin pour cette édition du débrief pour les 31 juillet et 1er août en rediffusion. Encore une petite nouvelle peut-être, en toute fin d'émission, nous avons appris durant l'enregistrement que le président Trump avait congédié son directeur de la communication qui venait tout juste d'être nommé. Anthony Scaramucci, un ancien de Goldman Sachs, avait été engagé il y a quelques jours à peine. Je vous lis le lead de l'agence France Presse. L'accalmie n'aurait pas pu être plus courte, peut-on lire, le jour même où la Maison-Blanche accueillait son nouveau secrétaire général pour redonner de la sérénité à une administration désorientée. Le sulfureux directeur de la communication de Donald Trump, à peine arrivé, a dû quitter ses fonctions. Scaramucci avait été embauché il y a 10 jours à peine. Il s'était illustré par des déclarations à l'emporte-pièce. Et le nouveau secrétaire général de la Maison-Blanche, il s'agit de John Kelly. Le poste en anglais porte l'intitulé Chief of Staff. C'est une position clé dans l'administration à Washington, un rôle clé à la Maison-Blanche. Donc John Kelly qui a décidé de congédier Anthony Scaramucci. Et par ailleurs, en politique provinciale, ici même en Colombie-Britannique, l'ancienne première ministre Christy Clark a donné sa dernière conférence de presse. Elle a confirmé au cours de cette conférence de presse qu'elle renonçait à la vie publique complètement. Donc, on verra quelle activité professionnelle choisira l'ex-première ministre de la province. Elle assure en tout cas qu'elle ne reviendra pas en politique. Voilà, c'est tout pour le débrief. On va se laisser aujourd'hui sur une des plus célèbres chansons de Jeanne Moreau, Le tourbillon de la vie, une chanson qu'on a pu entendre dans le classique du cinéma français, un film réalisé par François Truffaut, Julie Jim, Le tourbillon de la vie, pour refermer cette édition du 31 juillet et du 1er août. On se retrouve demain, bien sûr, même heure, même fréquence. À très bientôt.
Des bagues, un char à queue d'oie, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Vous écoutez CILS au 107.9 FM.
Ici Kevin Simonard, votre animateur de l'émission Ce soir en jazz. Je vous accompagnerai cet été tous les vendredis soirs à 22h sur les ondes de CILS-FM. Un rendez-vous consacré au jazz canadien.
Bonjour, ici Eliza. Vous êtes à l'écoute de CILS-FM, la seule radio communautaire francophone du côté ouest des Roches.
Sur les tempes abritant nos regards, autour de la lampe nous rêvions le soir, nous cherchions les horizons de nos 17 ans, d'autres lieux faits d'un présent tendu vers l'avenir, et nous rêvions, d'autres temps, d'autres lieux que nous irions par couple conquérir. Des planètes blanches sous le grand soleil, des mondes qui penchent où la vie s'éveille. Et nous rêvions, nous rêvions follement, de grands vols à contre-temps trouant le firmament, de quitter la Terre, vieillir de mille ans. Vieux système solaire, vieille lune d'antan, et nous rêvions, Les mains sur les tempes, abritant nos regards, autour de la lampe, nous rêvions le soir, nous cherchions les horizons de nos 17 ans, loin de ce passé présent, fermant notre avenir. Et nous rêvions, nous rêvions follement, d'un monde pétri de nos mains lancées sur le néant. Planète de cuivre que frôle en tanguant, nos grands vaisseaux ivres pointés hors du temps. Et nous rêvions, nous rêvions follement, Mais voilà qu'un papillon falène au duvet blanc, piégé par la lampe, vint en se cognant tout contre nos tempes, mourir en vibrant. Et nous rêvions, et nous rêvions.
Dieu s'est trompé pour me croire. Il a manqué à son devoir, puisqu'il m'a mis sur sa trajectoire. Je suis celui qu'elle aurait dû voir. Dieu s'est trompé, il faut me croire. Il a manqué à son devoir, puisqu'il m'a mis sur sa trajectoire. Je suis celui qu'elle aurait dû voir. Dieu s'est trompé. Dieu s'est trompé.
Passionnément, nous vivions le délire. Deux amoureux, de nuit, de jour. Deux amoureux, oui, pour toujours. Je sais que depuis, je t'ai fait souffrir. Il ne me sert à rien de te mentir. Il ne te sert à rien de crier au secours. Oui, aujourd'hui, chérie, c'est à ton tour. Je sais, je t'ai fait de la peine. Du bateau de tes sanglots, je suis le capitaine. Et fidèle, exposé au grand jour. Je te le redis aujourd'hui, mon amour, c'est ton tour. Laisse-moi te rappeler que je t'aime et accepte ce bouquet de crème. Aucune question sur mes allers-retours. Discret, tu rêvasses à ton tour. Dans l'anonymat à l'ordinateur, ça se bouscule à voile et à vapeur. Rouler des boules, les scénarios, hard, soft ou rigolo. Laisse-moi t'offrir un vrai classique en revenant plutôt du boulot. Je sais, je t'ai fait de la peine. Du bateau de tes sanglots, je suis le capitaine. Infidèle, exposé au grand jour. Je te le dis, chérie, aujourd'hui c'est ton tour. Laisse-moi te rappeler que je t'aime et accepte ce bouquet de graines. Allez, dansons comme au premier jour. Que je t'ai fait de la peine. Du bateau de tes sanglots, je suis le capitaine. Infidèle, exposé au grand jour. Je te le redis, chérie, oui, c'est à ton tour. Laisse-moi te rappeler que je t'aime et accepte ce bouquet de graines.
Good day. de la vie. Moi qui espérais continuer à boire sans déranger le fou qui meurt d'ennui, qui meurt d'ennui. Tombe à la renverse sous le poids des conflits, collé dans mon lit.
Charlotte du groupe Parlement Jeunesse de la Grande Bretagne. Vous êtes à l'écoute de CILS-FM, la seule radio communautaire francophone du Côte-Ouest des Rochers.
Désirez-vous être écrivain? Pour l'émission Histoire classique diffusée 3 fois par semaine, écrivez-moi à louise@louisealepin.com sur les ondes de CILS-FM.
Et qui va tout droit.